Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr.
Pourquoi deux mondes et pas trois ou quatre?
Tu as raison, gamin. Je crois que nous allons nous entendre. Mais pour le moment, ton monde me suffit. Il a l'air en tout point admirable et j'ai hâte de le visiter.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée au cinéma d'animation durant laquelle nous échangerons avec l'un des maîtres de l'animation, Jean-François Laguioni. Il a signé entre autres Gwen, le livre de sable, son premier long qui date de 1985 et là qui vient de sortir en DVD dans une superbe édition coproduite par La Traverse et Édition de l'Œil. Plus récemment, il est l'auteur de Le Tableau, Louise en hiver et Le Voyage du Prince, donc, dont la sortie est prévue pour le 4 décembre 2019. Nous reviendrons également sur Les vieilles légendes tchèques de Jiří Trinka, un superbe médiabook édité par Artus Film, un écrin pour le travail d'un roi de l'animation, Jiří Trinka. Ce combo est accompagné d'un ouvrage passionnant de Pascal Vimenet, Clé pour Trinka. Merci à Lisa Narboni, Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Pour causer animation, je suis accompagné du mystérieux loup-garou Picard, de son vrai nom Thomas Roland qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe et le site cultureaupoint.com. Thomas Roland également homme de radio, enfin bref Thomas Roland qui sait tout faire. Salut Thomas.
Salut Gégé et bien évidemment salut à toutes.
Lorsqu'il a reçu au Festival d'Annecy en 2019 un cristal d'honneur, Jean-François Laguioni a déclaré « Je ne vais pas faire le vieux numéro du réalisateur qui trouve que c'était mieux avant, mais la première fois que je suis venu à Annecy, c'était en 1963, et il n'y avait pas autant de festivaliers qu'aujourd'hui. Pour tout dire, lors d'un pique-nique organisé à la montagne, nous tenions dans deux autocars, des bus où se côtoyaient Norman McLaren, Jiří Trinka ou Paul Grimaud. » Eh bien oui, j'ai fait le lien entre nos deux sujets du jour, à savoir Jean-François Laguioni et Jiří Trinka. Il était normal que ces deux maîtres de l'animation se rencontrent au moins une fois. Il ne fait nullement doute d'ailleurs que ces différentes personnalités, hein, Grimaud par exemple, hein, entre autres, les marquaient hein, tout jamais Jean-François Laguioni. Et parmi ces personnalités, il y a donc Jiří Trinka, c'est une véritable légende de l'animation, hein, dont l'univers très riche. Et judicieusement, d'ailleurs, je le disais en introduction, analysé par Pascal Vimenet dans Clé pour Trinka, un livre donc qui est autant une biographie qu'une étude de l'art, de l'animation et de la mise en scène, selon Trinka. Alors Trinka, il n'est plus de ce monde, malheureusement, il est décédé très jeune, à 57 ans, en 1969, et il est considéré comme une des plus grandes légendes de l'animation, et aussi évidemment de l'animation tchèque, puisque bien que né à Pilsen, donc en Autriche, Hongrie, il ne faut pas se leurrer, hein, l'histoire a fait que l'Autriche-Hongrie, en fait, c'est la République tchèque d'aujourd'hui. Voilà. Et donc Jiří Trinka, il a un peu tâté de différents métiers, parce qu'il était, il a été décorateur au cinéma, il a été décorateur au Théâtre national de Prague, mais il a surtout été un passionnant cinéaste d'animation, car il était, depuis son plus jeune âge, passionné par les marionnettes. Et donc c'est quelque chose qu'ensuite il a voulu mettre en scène. Malheureusement, il n'a pas pu mener peut-être une carrière aussi riche que ce qu'il aurait pu faire. Malgré tout, il a signé 22 films d'animation, dont 5 longs-métrages, avant d'être emporté par un problème cardiaque, hein, voilà, très jeune. Et il a reçu une cinquantaine de distinctions. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, il est surnommé le Walt Disney de l'Est. Hein. Alors, c'est un peu compliqué de résumer toute sa carrière quand on a autant tourné. Alors, on va s'attarder sur un de ses longs métrages qui s'appelle Les vieilles légendes tchèques et qui est donc sorti dans un magnifique coffret chez Artus Film. Et c'est un film qui s'inspire de la chronique tchèque de Cosmas de Prague, hein, donc du XIIe siècle, et qui nous raconte les origines mythiques du peuple tchèque depuis le premier roi Sèche, à travers donc 6 contes traditionnels dans les décors miniatures de la Bohème originelle. Les héros accomplissent les exploits qui vont amener à la naissance de leur nation. La nature est féerique, les personnages héroïques, l'univers merveilleux. On est quelque part, bien sûr, dans la fantasy. On pense évidemment à Jan van Meeker, mais aussi beaucoup à Karel Zeman, qu'on aime beaucoup, notre équipe aime beaucoup dans Culture Prohibée. Même s'il n'est pas le premier à avoir réalisé ce qu'on appelle un film en volume en Tchécoslovaquie, c'est ce film-là qui va vraiment donner naissance à l'école tchèque du cinéma d'animation. Donc c'est un film historiquement intéressant, historiquement passionnant, mais c'est surtout un véritable chef-d'œuvre de l'animation. Il y a une composition des plans qui est incroyable, il y a une animation d'une qualité complètement incroyable, il utilise différentes valeurs de plan, il utilise des travelling, enfin c'est dément, il y a de la mise en scène tout le temps. Et on ne peut que vous conseiller, alors on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a une interview fleuve juste derrière avec Jean-François Laguioni, mais on ne peut que vous conseiller ces vieilles légendes tchèques. Je crois, Thomas, que toi aussi les vieilles légendes tchèques t'ont passionné.
Effectivement, c'est un film que j'ai trouvé plastiquement très beau, avec une animation qui est plutôt fluide. Et je conseille, comme toi, de l'achat de ce combo, un combo DVD Blu-ray, je crois. Ce combo pour tous ceux qui aiment le cinéma d'animation, mais aussi pour les autres. Après tout, ça peut être vu comme une grande fresque historique d'aventure, mais avec des poupées, quoi.
Je précise qu'il est disponible sur notre site en ligne www.lesfilmsdelagorgone.fr. Mais Thomas, toi, tu es aussi venu nous parler d'un cinéaste qui te passionne, enfin qui nous passionne, mais qui te passionne particulièrement, c'est Jean-François Laguioni.
Oui, Jean-François Laguioni, hein, que personnellement j'ai découvert assez tardivement. Hein, j'ai découvert avec Louise en hiver, et puis après j'ai revu certains de ses films les plus anciens. J'ai pas tout revu, et qui sort le 4 décembre un nouveau long métrage qui s'appelle Le Voyage du Prince. Donc Le Voyage du Prince, c'est l'histoire, c'est un univers fantastique. Hein, les personnages, ce sont des singes qui se comportent comme nous, comme des humains, hein, c'est-à-dire ils sont habillés, ils ont un langage. Ce sont des singes qui ont une ville et qui vivent au milieu de... Je pense que c'est une île, et leur ville, elle est au milieu d'une grande forêt, une forêt qui s'étend. Et dans cette ville, tout d'un coup, il y a un personnage qui trouve au bord de la mer un naufragé. Alors c'est un étranger, on ne sait pas d'où il vient. Il est tout seul, visiblement, c'est le seul survivant d'un raid guerrier. On ne sait pas trop pourquoi ni comment, pourquoi ce raid, même s'il y a un petit flashback qui nous le montre. Et ce personnage donc va découvrir le mode de vie de ces singes, qui est très proche du nôtre, en fait. Hein. Donc Le Voyage du Prince, c'est un film d'aventure, c'est un film qui est un peu politique, mais politique, gentiment politique, hein, on va dire. C'est pas une thèse non plus, mais c'est un film qui donne quelques coups de griffe, hein, à la société de consommation actuelle, et qui nous rappelle que quand même la nature, elle est quand même plus forte que tout, et qu'elle nous menace et peut reprendre ses droits. Donc c'est un film qui est quand même assez court, qui se regarde très bien.
avec une très belle animation, avec une petite morale écologique, hein, quelque part, et que je conseille vivement à tout le monde, parce qu'il peut être très bien vu autant par les enfants que par les adultes, parce que c'est un... C'est pas parce que c'est un film d'animation que c'est, c'est que pour les enfants. Et c'est un, je trouve que c'est l'un des meilleurs films de cette fin d'année. Et je vous encourage vivement d'y emmener vos enfants. Et comme ça, vous aurez une excuse pour aller voir un film d'animation.
Spécial animation. Jean-François Laguioni, qui a aussi une actualité multiple en cette fin d'année, parce qu'il est honoré à travers la sortie aussi de DVD, tout ça. Enfin, je vais te laisser nous en dire plus, Thomas.
Oui, au mois d'octobre, il y a eu un programme de 6 ou 7 courts-métrages, de ces 6 ou 7 premiers courts-métrages, qui étaient les mondes imaginaires de Jean-François Laguioni. Bon, malheureusement, la date est passée, ça sortait en octobre dans les salles. Jean-François Laguioni, c'est un réalisateur de films d'animation. Il est né en 1939, il réalise un premier court-métrage en 1965, quand il travaille dans les studios de Paul Grimaud. Ainsi, il réalise 8 courts-métrages avant de passer au long en 1985, avec Gwen, le livre des sables. Entre-temps, il s'installe dans les Cévennes, il y fonde son propre studio qui est appelé La Fabrique. Gwen, le livre de sable, vient donc de sortir en DVD, il y a quelques mois déjà, dans une très belle édition chez La Traverse, ou les éditions de l'œil, enfin c'est une coprode. Hein. Le film raconte l'aventure d'une jeune femme dans un monde désertique et qui part à la recherche de son ami enlevé par... le Makou. C'est ainsi qu'est appelée une entité qui se manifeste la nuit et déverse divers objets de taille gigantesque que les nomades appellent des images. Alors ça peut être des lunettes géantes, des tiroirs, des meubles de tailles diverses et généralement qui sont quand même assez disproportionnés. Il s'agit bien évidemment d'un film post-apocalyptique, la violence des Mad Max en moins. Le film de Jean-François Laguioni fait bien plus appel au mystère et à la poésie, ainsi qu'à une certaine forme d'humour, d'ironie. On sent chez le réalisateur un regard ironique sur le monde et la société de consommation. C'était déjà donc présent dans son premier long métrage. Des éléments déjà présents aussi, qui étaient déjà présents dans ses courts métrages aussi. Gwen, le livre de sable, est une œuvre onirique, pleine d'images surréalistes, d'idées visuelles pour créer un univers hors du temps, mais en même temps, tellement en résonance avec l'actualité écologique encore actuelle. Déjà à l'époque, on parlait quand même d'écologie. On parlait d'écologie notamment dans le cinéma japonais, le cinéma états-unien, hein, à travers des films comme Wolfen ou Prophétie, etc. Mais là encore, ça résonne plus que jamais avec l'actualité immédiate. Ironie du sort, Gwen se veut un film d'animation sur une ambiance post-apocalyptique plutôt pour un public adulte. Et la même année, le troisième film d'une saga identifiée comme étant pour un public averti, Mad Max sort et s'adresse alors à un plus large public. Malgré ses qualités, le livre ne rencontre aucun succès. Il rafle quelques bonnes critiques, notamment dans Starfix, le prix de la critique du Festival d'Annecy en 85 et le prix du long métrage du Festival de Los Angeles en 90, mais le public, lui, ne suit pas. C'est donc le moment de redécouvrir ce superbe film d'animation avec, en supplément, une bombe par hasard, un de ses courts-métrages réalisés en 69. Déjà assez ironique, mais aussi deux petits reportages sur la création du film et sur du studio La Fabrique. Surtout, le DVD est accompagné d'un livre dans lequel Jean-François Laguioni revient plus en détail sur la circonstance de cette création, comme dans un livre de bord illustré de nombreux croquis et ébauches. Parmi ses films les plus célèbres, il y a La traversée de l'Atlantique à la rame, court-métrage qui remporte en 1978 la Palme d'or du court-métrage au Festival de Cannes, et le Grand Prix du Festival international du film d'animation d'Ottawa, ainsi que le César du meilleur court-métrage d'animation en 1979. Parmi ses longs-métrages les plus connus, je peux citer Le Château des Singes, L'île de Blackmore, Le Tableau et Louise en hiver.
Nous allons de suite retrouver Jean-François Laguioni au micro de Culture Prohibée.
À l'heure actuelle, quel état de santé du film d'animation français feriez-vous ?
Oh, alors là, c'est la dernière question qu'il faut me poser, parce que je suis un petit peu à l'écart de tout ce qui se passe. Je ne vais pas beaucoup dans les festivals. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de films, notamment des films tout public, c'est-à-dire des films qui sont autant pour adultes que pour enfants. Donc ça, ça veut dire que le public a changé, donc les diffuseurs se sont mis un petit peu à la page, et puis on arrive maintenant à une maturité quoi du film d'animation. C'est ce que j'espérais quand j'avais 30 ans. À l'époque, on se disait, après le succès de René Laloux avec La planète des singes, qui a même eu un prix à Cannes, on disait, bon, bah, ça y est, ça se débloque, on va pouvoir aller voir un film de Laloux ou de Colomba ou de la Guillonie, pourquoi pas, comme on va voir un film de François Truffaut ou Bergman, j'en sais rien. Et puis le temps a passé et ça s'est pas fait. Et c'est en train de se faire. C'est un peu tard pour moi, mais c'est bien.
Au départ, vous vous intéressez au théâtre d'ombre, la décoration et à l'art dramatique. Et le cinéma d'animation, il a toujours fait partie de vous? Ça a toujours été une envie, une passion?
Non, ça a été à la suite d'un passage à la rue Blanche où je me destinais plutôt à faire du décor de théâtre. J'avais un copain, Jacques Colomba, dont on vient de parler, qui était chez Paul Grimaud et qui avait fait un premier film formidable en papier découpé, etc. Et il me dit, mais Paul Grimaud est un personnage extraordinaire, très, très accueillant, très généreux, très chaleureux. Alors je suis allé le voir, puis je faisais des spectacles de marionnettes. J'écrivais déjà pas mal de petites histoires. Bon, il y en a une que j'avais envie de faire en papier découpé, comme Jacques. Et puis ça s'est passé comme ça. Grimaud m'a dit, bon, écoute, il y a une caméra dans un coin qui ne sert à rien. Jacques va te montrer comment charger la pellicule. Et puis vas-y. Et puis il y a comme ça que tu apprendras à faire des films. Ça s'est passé aussi simplement que ça. C'était La Demoiselle et le violoncelliste en 1964.
Que pouvez-vous nous dire sur les différentes techniques que vous avez utilisées au cours de votre carrière et actuellement? Quelles techniques utilisez-vous notamment sur le voyage du prince?
Alors, j'ai jamais eu une très grande curiosité technique. Moi, l'animation, pour moi, c'est un moyen pour raconter des histoires. Bon, il se trouve que je dessinais, que j'étais trop timide pour faire de la prise de vue réelle, mais je voulais faire du cinéma. Et donc, les techniques les plus artisanales, les plus immédiates, c'est-à-dire manipuler des choses sous une caméra, image par image, que ce soit du sable ou des bouts d'allumettes ou des personnages en papier, ça me convenait bien. Et j'ai pas exploré beaucoup de techniques. J'ai donc le papier découpé, bien sûr, l'huile, la peinture à l'huile animée sur une plaque de verre éclairée par en dessous, ça j'aimais beaucoup. Ça, j'ai fait 2-3 films. Dans le programme de court-métrage qui est sorti récemment, là, qui s'appelle Les Mondes Imaginaires, où il y a l'ensemble de mes courts-métrages, il y a 2 ou 3 techniques comme ça, très, très simples et très... Alors après, en passant au long-métrage, naturellement, il faut s'adapter aux conditions de production. Et par exemple, pour Le Château des Singes, il fallait faire le film en dessin animé. Alors moi, je m'en remets aux gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Et on a fait 2 films en dessin animé. Et puis, on est passé à la 3D plus récemment avec Louise en hiver et Le Voyage du Prince. Et la 3D, bon, j'étais un peu réticent. Il y a 20 ans, je trouvais ça horrible. Et puis, elle s'est beaucoup améliorée. Les artistes se sont bagarrés avec les informaticiens pour que l'outil se perfectionne et devienne surtout plus artistique, quoi. Alors, ce qui fait qu'on peut faire oublier ce qu'on essaye de faire, que c'est de la 3D, puis, pour que ça redevienne du dessin, tout simplement, ou de la peinture.
C'est ce que je me demandais devant Le Voyage du Prince ou même devant Louise en hiver, parce qu'il y a une texture, une chaleur que je ne trouve pas dans d'autres films d'animation récents qui sont en 3D, où je trouve que la texture est moche, elle est froide, elle est impersonnelle.
Oui, voilà, il faut arriver à faire oublier complètement. Alors, il y a des combines. Pour Louise en hiver, on en a trouvé une avec l'équipe de JPL Film à Rennes, qui fait l'affaire, parce que moi je continue à faire des décors sur papier au pinceau. Alors j'utilise un papier à grains, et dans Louise en hiver, le grain du papier, on l'a reporté dans la 3D sur les personnages, sur l'animation, ce qui fait qu'on a l'impression que les personnages sont eux aussi fabriqués en papier. Alors il y a des trucs comme ça. Le crayon, par exemple, le film que je suis en train de préparer, c'est un film très dessiné au crayon. La couleur va compter très très peu. Et je souhaite que le trait de mon crayon, qui est un crayon bien gras que j'utilise sur du papier très ordinaire, ce trait soit respecté. Soit intégré dans l'animation 3D. Alors, on est en train de travailler là-dessus.
Bonjour, moi, je suis le rédacteur chef de l'émission. Je me permets une petite question, parce que, bonjour monsieur, parce que j'aime beaucoup votre travail qu'on a découvert depuis quelques années avec Thomas. Et vous parliez de Louise en hiver à l'instant, et je crois que c'est un film qui a quelque chose de très personnel pour vous, et puis c'est aussi un film où il y a ce rapport avec la mer, les bateaux, quelque chose. Je trouve que c'est quelque chose qui revient souvent dans vos films, dans votre cinéma.
Oui, c'est vrai. Bon, les souvenirs d'enfance qui remontent à la surface, vous savez, quand on prend un peu de bouteille, ça c'est inévitable. Et Louise en hiver, c'est un hommage aux stations balnéaires de bord de mer, où j'allais tout le temps quand j'étais gamin. Et puis, la mer, c'est un élément de liberté. Enfin, c'est comme ça qu'on le ressent, c'est des sensations de voyage, de liberté, qui m'habitent dans la plupart de mes films. D'ailleurs, presque tous mes films sont des histoires de voyage. Alors, des fois c'est dans le désert, des fois c'est sur la canopée, c'est dans les forêts profondes. Mais il y a toujours un déplacement. Mes personnages, j'aime beaucoup qu'ils s'aventurent dans l'espace, à condition qu'ils aient quand même quelque chose à raconter sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Oui, en hiver, c'était, je sentais que le public aussi avait un petit peu évolué dans le sens d'avoir accès à des histoires plus intimes comme en prise de vue réelle. Et ça se confirme maintenant avec des films français comme La jeune fille sans main ou les films de Julien Bizarro, Rémi Chaillet, etc. Ça y est, on peut faire des choses plus sérieuses.
En parlant de Louise en hiver, puis aussi le voyage du prince, j'y vois aussi une résonance par rapport à l'actualité. On parle beaucoup d'écologie, notamment d'effondrement, de théories de l'effondrement. Et je vois beaucoup ça dans vos films, plus ou moins diffus, mais surtout très présent dans le voyage du prince.
Oui, c'est vrai. Ça dépend des films. Il y a des films où j'ai pas envie du tout qu'ils transparaissent le moindre message ou la moindre idée, même philosophique, parce que je pense que c'est pas tout à fait mon truc. Je peux m'aventurer sur ce terrain-là à condition que ça soit en souriant et avec une certaine poésie. Et le voyage du prince est une petite parenthèse dans ce principe-là. C'est-à-dire que pour la première fois, depuis le Château des Singes, j'avais envie de raconter un conte qui est une forme un petit peu traditionnelle. Alors, faut pas s'y tromper, parce que les gens qui sont très savants dans le principe narratif du conte vont trouver bien des faiblesses à ce film, parce que avec Annick Lerel, ma co-scénariste, on n'a pas respecté les canons de ce moyen d'expression. Et on s'est laissé aller de temps en temps à des situations qui n'ont rien à voir avec un conte traditionnel. Mais il y a un fond d'écologie, un fond de politique, un fond de religion dont on s'est moqué allègrement, oui, c'est vrai.
J'ai l'impression que c'est un peu dans la même idée. En 73, vous quittez Paris pour vous installer à Saint-Laurent-le-Minier. Est-ce que c'était une nécessité de quitter Paris? Est-ce que cela a eu une influence quelconque sur vos idées, sur vos créations, et dans quel sens?
Sans doute. Avant, je pensais que je pouvais très bien rester à Paris et continuer à faire des films qui se passent sur l'océan ou dans la forêt. Ça n'avait pas d'importance pour moi. Et puis là, c'est un besoin de vie. Quitter Paris, j'ai quitté Paris dans les années 70-72, et pour aller dans les Cévennes, où j'ai fondé un studio qui s'appelle encore La Fabrique, et ça a eu quand même une influence. Le premier film que j'ai fait là-bas, encore deux ou trois courts-métrages. Et puis le premier long-métrage que l'on a fait avec quelques copains réalisateurs de courts-métrages, c'est Gwen et le livre de sable, qui, lui, c'est, en le revoyant, parce que je l'ai revu récemment, puisqu'on en a fait une copie restaurée avec le CNC, c'est un film qui bénéficie, je crois, de d'espace, de nature, de rapport avec dans les années, c'est assez curieux, parce que ce film parle d'écologie, alors que c'était pas du tout c'était plutôt en rapport avec la littérature d'anticipation que je dévorais aussi à l'époque, qui parlait de catastrophes naturelles. Un grand auteur de science-fiction britannique qui s'appelle Ballard a écrit des romans extraordinaires sur des catastrophes qui sont des catastrophes naturelles, soit par la forêt qui devient terriblement envahissante, soit par l'eau, soit par le vent qui se met à souffler en folie et qui détruit tout. Et Je crois que je suis parti de ça, de ce besoin de catastrophe. J'avais un esprit un petit peu négatif à l'époque. Et alors ça donnait une œuvre très bizarre, hein, qui a une carrière difficile, mais que beaucoup de gens aiment, parce que c'est un film un peu méditatif. Mais c'est vrai que le fait de quitter Paris a dû jouer.
Alors vous disiez que le film a une carrière difficile, effectivement. Il n'a pas rencontré un grand succès, mais 14 ans séparent Gwen, le livre de sable et le château des singes. Que s'est-il passé entre-temps? Comment vous avez rebondi sur l'après Gwen?
Oui, en effet, c'est une période difficile. Parce que le film ayant rencontré un échec commercial... mais un grand succès artistique, ça ne suffisait pas à maintenir le studio que j'avais créé dans les Cévennes, hein, dans un petit village comme ça au bord de la rivière, un truc tout à fait extraordinaire. Ça ne pouvait pas lui garantir une survie économique. Donc à ce moment-là, on a dit, bon ben, on va attendre que ça se tasse un peu sur le plan du long métrage, et avec mes collègues qui n'avaient pas envie de quitter le village où on s'était installé, on va faire un petit peu de télévision avec des films courts pour Canal+, pour France 3, voilà. Alors, on a maintenu la structure grâce à des combines comme ça. Mais moi, ça me taraudait pas mal. Je me disais, je ne vais pas arrêter de faire des films quand même. Et au bout d'une dizaine d'années, je me disais, peut-être que Gwen n'a pas marché parce que ça vient trop tôt, c'est un film pour adultes, c'est un film très esthétique. Alors, pourquoi pas faire un film pour enfants? C'est la seule fois dans ma carrière que j'ai pensé aux enfants en écrivant un film. Voilà. Mais il y a quand même une histoire qui est plutôt sympathique. Le film ressort d'ailleurs en ce moment. C'est curieux parce que c'est ce film-là qui m'a inspiré le Voyage du Prince, comme si j'avais voulu, 20 ans plus tard, reprendre un sujet en le traitant, le même sujet en le traitant un peu différemment.
Que pouvez-vous nous dire sur La Fabrique ?
La Fabrique a eu des heures de gloire, donc au moment quand on a fait le Château des Singes, on a été jusqu'à 50 personnes à travailler sur le film à cette époque-là. C'était en 96.
Pour être roi, être roi, être roi, j'ai lutté, mais enfin je suis roi. J'ai trahi, soudoyé, j'ai menti, louvoyé, sans répit, mais ça y est, je suis roi. Pour le trône, pour le trône, pour le trône, il faut tout sacrifier pour le trône. Il suffit d'être un chien, un vautour, un requin, une armée de vipères, de frapper par derrière. Être roi, oh, ce mot, c'est le plus doux qui soit, c'est le bonheur suprême, et le nec plus ultra, c'est la crème de la crème, le top, le nirvana, d'être roi. Tyran, monstre fameux, vous n'êtes que des nains. Je vais faire du terrible Ivan un gentil poussin. Je serai plus cruel que le pire des assassins. Je suis roi, je suis roi.
Vous écoutez Jean-François Laguillonni au micro de Culture Prohibée.
On avait d'autres choses dont je m'occupais moins, sinon en essayant de faire de la production, mais plutôt des films courts, comme je vous disais, et puis des collections. La Fabrique était devenue assez prestigieuse sur des, sur le principe de la collection de films qui n'est pas une série. Par exemple, sur Jules Verne. Donc, on a adapté 6 ou 7 romans de Jules Verne et on a fait des 50 minutes, ce qui était quand même des volumes importants en animation. Et des contes de Noël, une collection qui a très bien marché de films de 26 minutes sur le thème du cadeau. Bon, donc, des choses plutôt pour la télévision assez consensuel. Et la Fabrique faisait ce genre de choses avec tellement de cœur et tellement de volonté artistique que c'était quand même pas très rentable. Donc elle a eu des difficultés pour se maintenir. Et puis, à la suite de ces difficultés-là, moi j'ai quitté d'ailleurs la Fabrique pour venir en Bretagne pour faire un film de mer, l'île de Blackmore. Et puis, il y a eu une catastrophe naturelle, comme celle qui me plaisait bien quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire que la rivière a débordé, mais d'une façon monstrueuse, et elle a inondé une grande partie du village et la moitié de la Fabrique a été très endommagée par cette catastrophe. Voilà. Donc la Fabrique était en sommeil pendant longtemps et puis elle se répare peu à peu de ses blessures. Et là, elle est en train de redémarrer un petit peu avec des gens qui viennent. Parce que c'était un studio qui était connu dans le monde entier. Moi, je me rendais compte quand j'étais invité dans des festivals au Japon ou ailleurs, et les gens me parlaient de la Fabrique. Alors que quand j'y travaillais, je ne me rendais pas très, très bien compte. Cette histoire un peu folle, j'ai essayé de la raconter dans un livre DVD qui est sorti aux éditions de l'Œil sur cette nouvelle version de Gwen qui a été restaurée. Alors je raconte un petit peu notre aventure de Baba Cool post 68 art qui débarquait dans les Cévennes pour travailler un petit peu en collectivité.
En même temps, vous dites que vous étiez surpris par le succès, la réputation de la Fabrique, mais en même temps, votre travail avait aussi été énormément primé. Enfin, je parle de la traversée de l'Atlantique à la rame. Avant, il y avait eu le Masque du Diable qui avait eu quelques prix. Gwen, le Livre des Sables a été récompensé aussi. Oui. Vous deviez quand même vous douter que vous aviez au moins un vrai succès critique.
Oui, alors de ce côté-là, ça marchait bien, mais ça ne nous suffisait pas à faire vivre le studio. C'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs entre le succès critique et les résultats économiques. L'animation est quelque chose qui est très particulier, en fait. C'est quelque chose qui coûte beaucoup plus cher que faire de la bande dessinée. Et son audience est quand même beaucoup moindre. Alors, comment ça se passe économiquement, hein? Travailler 3 ans sur un long métrage, ce qui est le minimum. En plus, comme il faut 2 ans pour réunir le financement pour le producteur, 2 ans c'est aussi un minimum, on se retrouve à faire un film tous les 5, 6, 7 ans parfois, et en ne travaillant que sur un film. Moi j'essaye d'en préparer un autre quand je vois que le temps s'étire, mais on ne peut pas aller plus vite. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve dans une vie comme la mienne, en ayant fait au grand maximum, si j'arrive à faire le prochain, ce qui n'est vraiment pas gagné, à avoir fait sept longs métrages, serait un record absolu.
Bah, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, dans un documentaire, un très beau documentaire sur vous, vous êtes longuement interviewé, vous dites qu'une fois que le scénario vous vient, en fait, vous faites immédiatement des croquis plutôt sommaires, et puis derrière, vous souhaiteriez, vous, que le film se fasse globalement plus vite. Visiblement, vous trouvez que ça va pas assez vite.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est aussi ma façon de travailler. Il faut reconnaître que j'en suis un peu responsable. C'est-à-dire le temps qu'il faut pour réunir le financement d'un film. Généralement, je ne vais pas rester à me tourner les pouces. Il y a un scénario, il y a quelques belles images, mais tout ça, on ne peut pas avancer davantage puisqu'il faudrait réunir une première équipe. Alors, je travaille seul ou avec Annick. On travaille sur une maquette, c'est-à-dire un peu comme les constructeurs de bateaux. Avant de construire le bateau, ils font un bateau de petite dimension. Et ça permet de faire avancer quand même le projet, c'est-à-dire que la conception, elle à ce niveau-là, elle peut aborder tout ce qui est essentiel dans un film, c'est-à-dire son rythme, les dialogues, la musique, voir si les situations dramatiques ou comiques ou poétiques fonctionnent. Enfin, de plus en plus, je trouve que c'est essentiel. Je ne pourrais plus me passer de cette étape. Alors, voilà, je fais des petits croquis très rapides, un croquis par plan, et puis une fois que j'arrive au bout du film, j'ai 2500 ou 3000 croquis, je les photographie, et puis je fais la maquette, je monte. Et ce montage, je m'aperçois de plus en plus qu'il est respecté dans le film terminé, même si ensuite, par exemple pour Le Voyage du Prince, ce travail terminé, j'avais vraiment envie de travailler avec quelqu'un, et ça a été la rencontre avec Xavier Picard, qui est co-réalisateur du film, et qui lui a pris en main tout ce qui est la fabrication, l'animation, les décors, etc., qui sont faits à Angoulême et au Luxembourg.
Vous dites qu'il y a des personnages qui ne se laissent pas dessiner. Comment faites-vous dans ces cas-là?
Il faut du temps. Il leur faut du temps aux personnages. C'est-à-dire, souvent on croit que, bon, parce qu'on a une bonne expérience du dessin, en quelques coups de crayon, on va créer un personnage. C'est une création complète, c'est-à-dire le personnage, il sort de rien, hein, il sort de votre tête. Il s'appuie sur un scénario que vous avez écrit, mais en faisant les petits dessins, les petits croquis, en faisant la maquette du film, peu à peu le personnage me parle et me fait comprendre qu'il n'est pas tout à fait prêt à faire ce que je lui demande de faire. Et ça, c'est important. Et je m'aperçois qu'une fois que ma maquette est terminée, je le connais, le personnage. Et à ce moment-là, je le redessine un petit peu. Et ça me paraît honnête comme façon de travailler. Je me méfie beaucoup des choses qui viennent trop vite et qui sont trop faciles. Surtout que le personnage, il n'a pas fini de nous surprendre au moment où on enregistre les voix. Par exemple, dans Le Voyage du Prince, j'avais fait une première maquette et puis j'ai rencontré Enrico Di Giovanni qui fait la voix et qui fait la voix d'une façon formidable dans Le Voyage. Et je l'ai rencontré et je me suis rendu compte qu'il avait un visage qui était très supérieur à ce que j'avais dessiné. Donc je lui ai demandé la permission de redessiner le haut du personnage, le regard par exemple, en particulier, qui a amélioré profondément le... Ça peut être la façon de travailler sur la voix peut nous amener aussi à donner plus de poids au personnage. Le gros danger avec la 3D, c'est que les personnages n'aient pas assez de poids. Avec Louise Univers, c'est pareil. J'ai en rencontrant Dominique Faux, qui a une voix, qui a un caractère formidable, j'ai redessiné Louise. Je l'ai fait plus grosse, plus pesante quand elle marche dans le sable.
Vous écoutez Jean-François Laguioni, réalisateur entre autres de Le Voyage du Prince, au micro de Culture Prohibée.
Que pouvez-vous nous dire sur votre rapport avec la musique et la façon dont vous l'utilisez dans vos films ?
Oui, alors là aussi elle est essentielle. En fait, c'est assez simple. Je me rends compte de plus en plus que ce que je recherche à partir de mes petites histoires, c'est de communiquer une émotion par le film. Cette émotion, je ne suis plus capable de dire en pourcentage à qui l'attribuer parmi les auteurs ou tous les gens qui ont travaillé avec moi et qui ont des postes clés. Par exemple, le décorateur... dans Le Voyage du Prince, c'est Jean Palenstein qui a fait les premiers décors. Il a apporté un style, une lumière, une chaleur formidable. Ensuite, la voix dont on vient de parler avec Enrico. Lui aussi, il participe à l'émotion générale. Bon, le scénario qui s'est retravaillé, les dialogues avec Annick Le Ray. Voilà. Et puis la musique. Eh bien, la musique, peut-être qu'elle prend aussi 30% ou 40% de l'émotion que ressentent les spectateurs à l'issue du film. Et ça, je n'en sais rien. Donc, je me dis attention. En tant que dessinateur, trop souvent dans l'animation, on pense que c'est le dessin et la façon de faire bouger les personnages qui est primordial. Or, pas du tout. Ça n'est qu'un élément du film. Et dans cette maquette que je fais, ça me dure entre un an et deux ans pour faire la maquette du film. J'essaye, je dis bien j'essaye, j'y arrive pas toujours, de faire avancer tous les niveaux artistiques du film en même temps. Donc la musique... Avec le musicien, on travaille sur des maquettes en même temps que je dessine. Et puis, les dialogues, on les refait aussi constamment, à mesure. Si on peut enregistrer la voix des personnages, ce qu'on avait fait avec Dominique Faux pour Louise Univers, alors là, c'est formidable, parce que on sait qu'il y a déjà un niveau très important qui est assuré. Et puis, quelques images en couleur qui viennent peu à peu. Mais c'est quelque chose, l'image en couleur, qui nécessite quand même d'avoir une équipe plus importante. Donc, on ne peut pas faire ça à deux ou trois. Et ça veut dire que le financement a déjà démarré. Tout au moins, une partie du financement a été libérée. Voilà, donc c'est de l'artisanat, hein, c'est du bricolage, mais ça veut dire qu'on a en tête tout ce qui est important dans un film.
En 96, vous faites une incursion à la télévision avec en réalisant un ou plusieurs épisodes de Billy the Cat dans la peau d'un chat. Qu'est-ce qui change pour un réalisateur de films d'animation dans le travail pour la télévision par rapport au cinéma?
Oui, alors là, c'est je pense que les informations sont un peu tronquées. Je n'ai pas réalisé de films pour la télévision à aucun moment. J'étais coproducteur de cette série. Les animaux du bois de Katsu, le réalisateur était Philippe Leclerc, et j'ai fait quelques dessins pour donner un petit peu le style des personnages, et d'ailleurs mes dessins n'ont pas été retenus, donc ça n'a pas allé plus loin. Mais par contre, c'était la survie de la fabrique, hein, qui était en jeu, donc cette série... qui est la seule série importante que l'on ait fait, nous a permis de faire d'autres choses plus réduites, plus ambitieuses, etc. C'est la survie d'un studio, c'est un gros problème. Ça. Tous les studios d'animation sont confrontés à ce problème, ils doivent travailler pour la télévision, de temps en temps, pour assurer les fins de mois.
Alors, par la fabrique, il y a quand même des noms connus qui sont passés là-bas. Notamment, je pense à Michel Oslo, pour Prince et Princesse et pour une série télévisée qui s'appelle Cinécie. Que pouvez-vous nous dire sur cette rencontre et l'influence que l'Afrique a pu avoir sur le travail de Michel Oslo?
Alors, la fabrique était une terre d'asile, un petit peu... pour beaucoup de réalisateurs de courts-métrages. Déjà, le lieu est formidable. Et puis, on avait un fonctionnement d'une grande liberté. Alors, les créateurs, les auteurs, les réalisateurs se sentaient vraiment totalement libres. Donc, ça marchait très bien pour le court-métrage. Ensuite, pour faire un long ou pour faire une série, on essayait quand même de structurer les équipes pour que les films se soient réellement produits dans d'assez bonnes conditions. Et Michel avait fait un ou deux courts-métrages avec nous sur place. Même c'était avant la création de la fabrique, il avait fait Les Trois Inventeurs avec moi sur un banc-titre que j'avais bricolé pour lui. Et puis, il avait envie de faire des ombres chinoises. Ça me plaisait beaucoup parce que j'en avais fait un petit peu au Centre d'art dramatique avant de rencontrer Grimaud. Et il a fait donc, je ne sais plus combien, de courts-métrages qu'il a ensuite réussi à réunir pour la distribution en salle et pour la distribution à la télévision. Et c'est devenu Cinécie. Alors, Michel, c'est une grande rencontre, mais c'était pas la seule. Hein. C'était le cas avec des grands auteurs comme Jean-Christophe Villard, Frédéric Vitali. Ils ne me reviennent pas tous en tête. Et puis, c'était aussi un endroit de passage. C'est-à-dire, il y avait des auteurs et des artistes de l'animation de toute l'Europe, qui même du Canada. On avait tissé des liens avec l'Office national du film, qui était vraiment très sympathique. Et les gens passaient nous voir, ils restaient un mois, deux mois, trois mois, et puis ils repartaient. C'était un moment très étonnant. Si j'ai un peu le temps, j'aimerais bien écrire l'histoire de la fabrique.
Parmi vos collaborations, il y en a une J'ai vu votre nom au générique d'un film dans lequel je n'attendais pas du tout vous voir. C'est Soleil haut de Medondo. Que pouvez-vous nous dire sur cette collaboration ?
Ah, c'est un projet qui n'a pas abouti. C'était même avant La Fabrique. Quand j'ai quitté Paris, j'ai rencontré Medondo et on s'est installé près de Montpellier. On avait loué une petite maison dans les marécages. Et il avait ce projet avec Jacques Ruisseau, un comédien, sur l'apartheid en Afrique du Sud. Donc on a commencé à travailler, on a même fait un petit pilote, et puis ensuite, j'ai créé La Fabrique, le projet ne s'est pas fait. Et puis Med, par contre, a eu une carrière formidable, il a fait des films formidables.
Qui n'est pas si connu que ça, en fait, hein, malheureusement. Oui. Il nous a quittés cette année, là.
Oui.
Ses films sont difficiles à voir. Mais donc, j'ai pu voir qu'il reste vos dessins au générique de Soleil haut.
Oui.
Voilà.
Dans le générique, je crois, il y a une séquence qui fait un prélude. Alors, j'ai un petit regret, j'ai oublié dans les artistes qui sont passés à La Fabrique, Bernard Palacios et Nicole Dufour, qui ont travaillé avec moi sur Gwen, et qui, eux, sont restés à La Fabrique et qui continuent à la faire vivre.
Il a traversé la mer. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a traversé la mer.
Avant eux, avant les cupelés, la fleur, l'oiseau et nous étions en liberté. Mais ils sont arrivés, et la fleur est en pot, et l'oiseau est en cage, et nous en numéro. Car ils ont inventé prison et condamné, et casier judiciaire et trou dans la serrure, et les langues coupées des premières censures. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, l'homme était un prince, la femme une princesse, l'amour une province. Mais ils sont arrivés, le prince est un mendiant, la province se meurt, la princesse se vend. Car ils ont inventé l'amour qui est un péché, l'amour qui est une affaire, le marché aux pucelles, le droit de courte cuisse et les mères maquerelles. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Les singes, les singes, les singes de mon quartier. Avant eux, il y avait paix sur terre, quand pour 10 éléphants, il n'y avait qu'un militaire. Mais ils sont arrivés, et c'est à coups de bâton que la raison d'État a chassé la raison. Car ils ont inventé le fer empalé, et la chambre à gaz, et la chaise électrique, et la bombe au napalm, et la bombe atomique. Et c'est depuis lors qu'ils sont civilisés. Les singes, les singes, les singes de mon quartier.